Gladys Després, tu as réalisé la panification des mœurs, qu'on vient de voir. Pourquoi avoir fait un film sur ces questions du pain ?
Le pain et la céréale, enfin le blé, m'ont inspiré progressivement après avoir travaillé sur des questions liées à l'élevage, au pastoralisme, etc. J'avais envie de dérouler le fil de l'alimentation, aussi bien au niveau concret, existentiel, pratique que symbolique. Et en fait, le pain et le blé, c'est un aliment de base dans notre société, dans notre civilisation, et il recouvre plein de choses, et il reste fondamental. Il raconte, à mon avis, par sa forme, par son mode de production, par son goût, par les aliments qui le composent, notre enracinement dans notre société, dans nos rapports économiques, relationnels. Voilà, je trouve que c'était un aliment symbolique qui pouvait raconter tout ça, et j'avais envie de tirer ce fil rouge pour pouvoir parler de choix existentiels, de choix de vie aujourd'hui dans la France contemporaine. Et donc voilà un petit peu l'intuition, la démarche, l'impulsion de départ de ce film.
Alors, dans ce film, on voit deux choix de vie, on pourrait dire, assez antagonistes. D'un côté, des personnes qui se retrouvent à redevenir artisans, boulangers à l'ancienne, dans l'Ariège, et de l'autre, des traders de matières premières. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré ces deux mondes ?
Oui, alors le film, c'est une immersion entre ces deux univers. D'un côté, un fournil les gens font le pain à la main avec un levain dont la souche a été créée il y a 100 ans. Ça se passe à Hérazin, en Ariège, dans la vallée de Castillon.
Bah, les réflexions, c'est comment faites-vous l'hiver quand il y a de la neige ? On déneige et on roule sur une route parce que simplement on est habitué. Je me dis que non, je me sens pas en marge et que je vis pleinement vraiment au milieu de la société et que j'espère faire passer, du coup, véhiculer quelque chose, qu'on arrive à faire passer le fait de dire que c'est possible de vivre autrement, c'est juste un choix en fait, c'est juste un choix de vie. Et ça, il faut le savoir, et je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas possible. Et les gens me disent, mais moi je fais mon pain, ils viennent juste prendre des conseils ou me demander si c'est possible d'avoir du levain, mais c'est bien entendu, et je leur dis, c'est bien, il faut continuer à faire son propre pain. Parce que c'est du coup prendre aussi la vie en main et être maître de ses choix et de ses décisions, et ça c'est important.
Et de l'autre côté, c'est à In Vivo, c'est une entreprise coopérative, c'est même une union de coopératives agricoles, c'est la plus grosse en France, union de coopératives agricoles. Ça se passe à Paris, au siège de cette société, dans le 16e. Et là, j'ai filmé, passé du temps avec des commerciaux, donc des traders, et des experts du pôle analyse fondamentale, dans le secteur, le pôle marché des grains. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vendent du blé et plein d'autres céréales à l'international. Donc ils vendent du blé de leurs coopérants, puisque à la base il y a des agriculteurs qui constituent cette coopérative, mais ils utilisent les systèmes financiers mondialisés, et donc ils sont sur des marchés spéculatifs. Donc à la fois, évidemment, ils vendent le blé d'origine française, et qui fait partie de leur structure, mais aussi ils sont dans des opérations virtuelles pour avoir des stratégies financières, économiques sur ces secteurs-là.
La seule originalité de notre activité, c'est qu'on passe une commande donc, qui n'est pas encore payée, parce qu'on va la payer uniquement à la livraison, comme pour votre voiture. Mais entre-temps, on peut se défaire de ce bon de commande et le revendre, ce titre de propriété à venir, à une tierce personne. Mais pour autant, c'est une marchandise à venir réelle.
Au plus bas, mais c'était à minuit hier soir, hein, c'est surpris. Au plus bas, on était à 549. Et au plus haut, on a fait 569. 27.
Alors, je me doute que les personnes en Ariège, l'approche a été peut-être assez facile. c'est peut-être dans ton réseau de contacts. Par contre, est-ce que tu as des amis traders qui t'ont permis de faire rentrer dans cette boîte? Comment t'es rentré là-dedans?
Alors non, j'ai pas été pistonnée. J'avoue que j'ai pas beaucoup de connaissances autour de moi qui sont dans le secteur de la finance, ni. Enfin voilà. Donc non, cette rencontre avec InVivo, elle s'est faite un peu par hasard, après quand même pas mal de mois de recherche, parce que mon idée de départ, c'était de. Je voulais filmer des gens dont l'activité était liée à quelque chose de macroéconomique au niveau de l'alimentation, des céréales. Niveau mondial, dont la matière première ou la matière quotidienne, c'était des chiffres, en fait. C'était ça, mon but. J'avais envie d'aller filmer à la FAO, la partie des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture. Le bureau est à Rome, puis c'était très compliqué, voire impossible, voilà, pour moi de rentrer en contact. Voilà, j'ai pas de carte de presse, je suis pas journaliste, c'est, mon approche est pas informative, c'était un petit peu compliqué à expliquer, à rentrer en contact. Et voilà, un jour j'étais à Paris, je suis tombée par hasard sur ce grand bâtiment dans le 16e qui avait en fait une énorme photographie qui recouvrait plusieurs étages et toute la largeur du bâtiment. Et sur cette photo, enfin sur ces photos, ce montage, il y avait à la fois des vignes, du blé, des vaches, et il y avait cette inscription « Ici, en plein cœur de Paris, bat le cœur de l'agriculture française ». Je fais « Ouh !» Je me suis dit que ces gens avaient quelque chose à dire et qu'ils avaient envie de communiquer au grand public autour de l'agriculture, donc tout simplement je suis rentrée dans l'accueil, dans ces grands bureaux vitrés, je me suis renseignée, j'ai découvert que c'était une union de coopératives et qu'un de ces quatre secteurs d'activité principaux, c'était le commerce, le stockage des grains, des céréales. Donc de fil en aiguille, j'ai pris contact de façon plus approfondie. Tout d'abord avec, c'était tout un processus avec le directeur de la communication, le directeur du secteur marché des grains. J'ai expliqué mon approche qui est celle plutôt d'une documentariste qui avait envie d'être en immersion et de filmer des gestes du quotidien, de filmer des hommes, des femmes dans leur milieu de vie et de pas chercher à synthétiser ou à avoir une information, réductrice. J'avais envie de montrer quelque chose de l'ordre du sensible, même si ça peut paraître un peu antinomique pour certains sur ce monde-là. J'avais envie de filmer des gens dans leur univers, dans leur décor. C'est pour ça que je parlais de choix existentiels. Alors on choisit pas forcément tout de A à Z de notre vie, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que le décor qui constitue notre vie au quotidien, que ce soit à la maison, dans la rue ou surtout au travail où on passe potentiellement beaucoup d'heures, il raconte quand même quelque chose de tout ça. Je suis tombée sur avec chance, je suis tombée sur un directeur de la communication qui comprenait mon langage. Il a compris quand je lui ai dit que je n'étais pas journaliste et que je ne voulais pas faire des interviews pour obtenir un discours, et il n'a pas du tout ensuite cherché à me piloter ou à me dire du tout ce que je devais faire. Après plusieurs rencontres, plusieurs courriers, etc., j'ai obtenu le droit de filmer complètement cet étage et sans avoir signé quoi que ce soit comme un accord préalable, de visionnage préalable qui serait restrictif. Donc j'ai eu pas mal de chance, j'ai quand même montré le film avant la diffusion parce que c'était un minimum de respect par rapport aux gens qui ont été filmés dans les deux univers, et ça leur a pas posé de problème. Alors je pense que ces personnes les personnes des deux univers ont pensé qu'ils ont été visiblement respectés, bien que quand ce film est projeté, il puisse susciter des réactions très différentes en fonction des spectateurs. Ils trouvaient qu'il y a des choses aberrantes, mais visiblement, de la part des protagonistes, ça ne l'est pas, ça respecte leur quotidien.
Dans ce film, on voit un bout et un autre de la chaîne. On ne voit pas du tout la question des boulangeries industrielles, des chaînes qui fleurissent partout et qui se font racheter toutes les petites boulangeries par des grosses chaînes. Pourquoi ?
Alors voilà, bah, en fait, c'est pas un film qui raconte vraiment un état des lieux aujourd'hui de des différentes facettes de la production et de la consommation du pain en France. Ça pourrait être un film très intéressant, je pense, à faire. Et en fait, au départ de mon envie de dérouler ce fil conducteur un peu symbolique sur les choix existentiels liés au pain, bah, je m'étais dit oui, je vais aller effectivement voir 5-6 univers différents. Je pensais voilà une boulangerie industrielle. Je pensais un petit boulanger de ville qui subissent un petit peu ce que tu dis de façon récurrente, qui sont affiliés à des chaînes, à des minoteries, etc. Je pensais aller voir un paysan boulanger, enfin différentes choses. Et puis après, pour des choix de réalisation et de clarté et d'approfondissement aussi des univers, j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de plus simple. Alors pas simpliste et pas manichéen, mais du coup j'ai choisi une sorte de diptyque, quoi, voilà, de mettre en parallèle des échelles opposées, des antipodes, mais avec cette volonté, voilà, de pas être caricatural et de laisser justement peut-être plus de place à la lenteur aux gens qui vivent, plutôt que d'essayer de dresser un portrait. Voilà, si j'avais filmé 6-7 univers, si j'avais toujours la même durée de film, c'est-à-dire une heure de film, ça aurait fait quelque chose de très court et qui est à l'opposé un petit peu de mon envie formelle de raconter les choses et de prendre le temps, voilà, de laisser évoluer les personnes dans leur quotidien. Voilà pourquoi je suis arrivée à ça.
On est dans le cadre d'un festival sur les films en recherche sur le développement durable. La diffusion de ce film, alors elle va être au ciné-club de Canal Sud ce vendredi, et tu seras là pour en causer. Est-ce qu'on pourra le voir ailleurs ensuite?
Alors, il va passer... Ce sera trop tard. Il passe demain à Castillon-Couserans, donc ce sera sûrement trop tard. Ensuite, pour l'instant, il est prévu qu'il passe au Centre culturel Le Moulin à Roques-sur-Garonne le 3 juin, si je ne me trompe pas, avec une soirée discussion aussi. Pour l'instant, le film, il est passé à environ 13-14 endroits différents, que ce soit festival, lieu associatif. Il est passé la semaine dernière au Café Plume. Il est passé au Salon Prime Vert à Lyon, un festival ciné-campagne en Bretagne, à l'EHESS à Paris. Enfin voilà, des choses assez variées. J'espère que ça va continuer. Et voilà, ce sont des projections qui peuvent être associatives ou cinéma ponctuel, etc. Pour l'instant, il n'y a pas une grande tournée prévue, mais voilà, il y a déjà une bonne petite expérience de diffusion.
Et une petite question sur le financement, parce qu'un film comme ça, alors il a nécessité effectivement une caméra, d'aller sur place à droite à gauche, mais il faut quand même un peu de moyens. Tu l'as financé comment, ce film?
Alors il faut un petit peu plus qu'une caméra, mais... c'est-à-dire qu'au tournage on était deux, voilà, un cadreur et moi la prise de son. Après, il y a eu un travail avec une monteuse, une mixeuse, et puis en amont, tout un travail avec ma productrice. Donc là, c'est un premier film. Moi, je faisais plutôt du documentaire radio. Là, c'est un premier film, et j'étais accompagnée par Chantal Tessier, qui a été longtemps productrice au film de La Castagne, et plus récemment, donc, au local production. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce film a été produit, avec le local. Et dans ce circuit de production, il y a eu, au bout de pas mal de temps, une coproduction de la télé toulousaine, TLT, une aide, enfin plusieurs aides de la région, du conseil régional, donc une aide à l'écriture, une aide à la production, et puis une aide du CNC, voilà, et enfin on a eu une aide pour la création musicale. Donc une aide, c'est à la fois par le festival de Jindou et la SACEM. Donc ça a permis de faire une composition musicale originale. Donc c'est Denis Clazereau, qui est un musicien de musique improvisée, qui utilise un saxophone baryton, dont j'avais vraiment envie de matière et de sensibilité, voire de côté parfois, comment on peut dire, un peu parfois rêche aussi, parfois lyrique, parfois rêche, parfois raflé.
Bonjour.
est-ce que tu as d'autres projets après donc avec les bergers en montagne, maintenant le pain, qu'est-ce que c'est la prochaine étape de ton voyage?
Alors en ce moment je suis en train de suivre un projet d'habitat coopératif dans le Lot, au sein du hameau d'Andral, qui est un éco-hameau qui, lui, au niveau de la structure juridique, est en SCI. Et à l'intérieur donc, de ce hameau, il y a un projet d'habitat coopératif de 6 foyers. Et donc ça, je le suis parce que je fais une approche un peu anthropologique et je commence juste à filmer, à être présente. Enfin, j'ai passé une dizaine de jours là-bas au cours de cette année. Et puis par ailleurs, en ce moment, je travaille avec un vigneron bio de l'Ariège. Au niveau du son, je fais une création sonore pour lui. Et j'aimerais bien, si possible, peut-être faire un film avec ce producteur et sa compagne.